Je vous propose de suivre deux lectures, la première se trouvant dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, et à partir du verset 33. Voilà, Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 33. Matthieu, chapitre 5, verset 33, c'est le Seigneur qui parle, d'un extrait du Sermon sur la montagne. Le Seigneur dit, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » Et puis, une deuxième lecture pour compléter celle-ci se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 5. Voilà, au chapitre 5 de l'épître de Jacques, le verset 12. Jacques, chapitre 5, verset 12. Jacques, chapitre 5, verset 12. Jacques écrit ici, « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Voilà, on s'est parfois posé la question, en réfléchissant sur ce texte, de savoir si un chrétien avait le droit de prêter serment devant un tribunal, par exemple, hein, puisque ces deux textes semblent nous enseigner qu'il convient de s'abstenir de tout serment. Certains commentateurs bibliques ont également eu parfois du mal à réconcilier ces paroles du Seigneur et les paroles de Jacques avec certaines expressions de l'apôtre Paul, par exemple, où nous le voyons dans ses épîtres, jurer et prononcer des paroles qui s'apparentent à des serments. Alors, il n'y a jamais de contradiction dans la parole de Dieu. Ce que le Seigneur enseigne ici, vous voyez, c'est l'importance d'avoir pour le chrétien une parole claire et sans ambiguïté. Voilà, que votre parole soit oui, oui, non, non. Le serment auquel le Seigneur ainsi que l'apôtre Jacques font référence consiste en réalité en ces paroles que certains juifs de leur temps se sentaient contraints d'ajouter à leur dire pour, pensaient-ils, gagner en crédibilité. Alors certains juraient par leur tête, certains juraient par la tête d'être cher, d'autres même par Jérusalem, par le Seigneur lui-même, sans raison valable, de telle sorte que leurs paroles finissaient par perdre tout crédit. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Le chrétien devrait avoir une parole claire, de telle sorte qu'il n'y a rien besoin n'a ajouté à ses affirmations ou ses dénégations pour en établir la vérité. Alors, quelques précisions, ça ne signifie pas qu'un chrétien, va s'engager à la légère. Non, pas du tout. Mais ça ne signifie pas qu'en toute occasion, on ne puisse revenir sur un engagement. Voilà, ce n'est pas du tout ce que le texte nous dit. Par exemple, il y a des cas où la Bible nous montre que, au contraire, il faut revenir sur certains engagements. Par exemple, c'est vrai lorsque nous sommes placés sous une autorité qui est supérieure à la nôtre. Alors, dans ce cas-là, un engagement que nous avons pris peut être annulé. Par exemple, dans le livre des Nombres, vous le découvrirez, hein, chapitre 30, lorsque une femme au sein d'Israël s'engageait par un engagement, une promesse, et que son mari, qui ne savait pas la chose, venait à l'apprendre, le mari pouvait annuler cet engagement. Et Dieu avait dit par Moïse, eh bien, cette femme sera dégagée de cet engagement, et si elle ne le respecte pas, elle ne sera pas tenue coupable, car son mari l'a annulé, lui qui est le chef du foyer. Voyez. Et puis un autre cas où il ne nous convient pas d'honorer un engagement, c'est quand nous nous rendons compte que l'engagement est mauvais. Hein, on peut prendre un engagement et par différentes circonstances, ou bien par une saine réflexion, on s'aperçoit qu'on pensait bien faire et ce n'était pas le cas. Je pense notamment à Jephté, vous voyez, cet homme, héros de Dieu, qui a fait ce vœu inconsidéré de livrer sa fille en holocauste, il aurait dû revenir sur son engagement. Il n'aurait pas dû accomplir cet acte. Et de manière plus claire encore, on peut aussi penser, vous voyez, à Hérode, lui n'était pas croyant. Il s'était engagé, vous voyez, à accorder la moitié de son royaume, s'il était possible, n'est-ce pas? Et ceci contre la tête de Jean-Baptiste. Bien sûr, Hérode aurait dû prendre conscience de sa folie et revenir sur cet engagement. Voilà, ce sont des cas donc dans lesquels il nous est non seulement possible, mais dans lesquels il convient de revenir sur un engagement inconsidéré. Mais nous revenons à cette parole. Voyez, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Une parole claire et sans ambiguïté. Nous allons voir que le fait pour nous de cultiver cette manière de parler est un bienfait, non seulement dans nos relations avec les autres, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Voilà, que votre parole soit oui, oui, non, non. Dans le domaine de nos relations avec les autres, c'est important d'avoir une parole claire, une parole sans ambiguïté. Dieu nous a dotés de la parole. Vous voyez, il nous a fait à son image, il est un Dieu qui parle. Il parle avant tout par Jésus-Christ. Jésus-Christ d'ailleurs est révélé comme la parole. La parole, c'est un moyen de communiquer, d'échanger des pensées, des réflexions, des émotions, des idées. C'est un don merveilleux que la parole, c'est un don dont les animaux ne disposent pas. Vous voyez, ça met à part l'homme de toute espèce animale. La possibilité de parler, c'est un don de Dieu. Et on comprend, en réfléchissant un peu, que c'est extrêmement important que cette parole soit claire, que cette parole puisse être prononcée dans la vérité, que nos relations avec nos semblables, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur de l'Église, soient toujours marquées par le sceau de ce qui est vrai, car si nous nous servions de ce don merveilleux de Dieu, de la parole, pour tromper, vous voyez, que Dieu nous garde, bien toutes les relations entre les hommes s'en trouveraient faussées. Oui, on vit dans un monde d'apparence, n'est-il pas vrai? Hein, bien souvent, le mensonge marque les relations dans le travail, les relations parfois avec des inconnus. Voilà pourquoi tant d'escroqueries, de ruses, dans les affaires parfois aussi. Vous voyez, que Dieu nous garde, de vexer dans ces choses, et que bien au contraire, notre parole soit empreinte de vérité. D'ailleurs, c'est l'un des premiers fruits de la conversion. Tenez, je vous propose que nous le lisions dans l'Épître aux Éphésiens. Nous lirons quelques textes ce matin. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, et à partir du verset 20. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, et à partir du verset 20e. Voilà, je ressors mes lunettes. Paul écrit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité et à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Vous voyez, le premier fruit de la conversion qui est mentionné là, bien voilà, renoncez aux mensonges. Paul vient d'expliquer aux Éphésiens qu'ils sont en Christ. Et béni soit Dieu, si nous avons reçu Christ comme notre Sauveur, nous sommes en lui. En lui, nous avons cité cette parole tout à l'heure, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La plus grande de ces bénédictions, c'est que nous sommes dans une nouvelle position devant Dieu. Nous ne sommes plus sous la condamnation de nos péchés, sous la condamnation de la loi, mais nous sommes agréables dans le bien-aimé. Et dans cette position, bien sûr, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous vivions autrefois. C'est pourquoi Paul dira, « Dépouillez-vous !» Si vous êtes en lui, vous avez été instruit par rapport à la vérité qui est en Christ, dépouillez-vous du vieil homme. Le vieil homme, c'est ce que nous étions en Adam. Dépouillez-vous du vieil homme et de ses œuvres Remarquons que c'est une démarche volontaire, que la parole de Dieu s'adresse à nous, à notre volonté. Dépouillez-vous, renoncez, faites mourir. Et bien, si notre vie était marquée par le mensonge, par l'habitude de tromper, bien, il convient, voyez, de se laisser, c'est écrit, renouveler dans l'esprit de notre intelligence. Non, dans le Seigneur, ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Parfois, il peut m'en coûter de dire la vérité, mais eh bien, je veux le faire, parce que c'est ce qui est agréable à Dieu. Et Dieu bénira. Et Paul ajoute, parce que nous sommes membres les uns les autres, c'est particulièrement important ça, dans l'Église. Voilà, il est tout à fait important qu'entre des frères et sœurs dans la foi, entre chrétiens, eh bien, puisse régner une confiance réciproque, digne. Vous voyez, parce que nous avons été rachetés, nous marchons dans la vérité du Seigneur. Alors, ce n'est pas seulement dire la vérité, mais Paul écrit ici, parler selon la vérité. Selon la vérité, quelle est la différence? Bien, dire la vérité, c'est ne rien dire de faux, de mensonger. Parler selon la vérité, ça va même plus loin, c'est s'abstenir, vous voyez, des éléments de fausseté qui pourraient se manifester dans notre conduite, d'une manière ou d'une autre. Vous savez qu'il y a une certaine sagesse, une sagesse du monde, qui enseigne qu'il faudrait toujours parler de manière détournée. Et parfois, vous voyez, sans dire un mensonge flagrant, bien, le fait de ne dire qu'une moitié de la vérité, ou de la déformer un petit peu, bien, c'est quand même, ça relève de la tromperie. Vous voyez, ce n'est pas marcher selon la vérité. Quelqu'un dit parfois, une demi-vérité peut être un mensonge tout entier. Et c'est vrai. Parfois, le fait de cacher une partie de la vérité dans le but de tromper s'apparente également au mensonge. Quelqu'un dit encore, c'est un prédicateur, un homme de Dieu, quelqu'un disait encore, un mensonge flagrant, c'est facile ça à démasquer, mais quand vous mêlez le mensonge à la vérité, ça devient bien plus difficile à combattre. Alors on comprend que la parole de Dieu nous encourage à rechercher la vérité, à fuir toute attitude de faux semblants, d'hypocrisie. Je ne sais pas, j'ai noté par exemple là quelques situations, le fait de faire un reproche à quelqu'un pour une situation, alors qu'en réalité, on lui en veut pour autre chose, et on se sert de la situation pour rappeler le souvenir de quelque chose d'autre. Mais tout ça, vous voyez, ce n'est pas marcher selon la vérité, et on veut se dépouiller. On veut se dépouiller de tout cela, laisser la lumière de Christ sonder notre cœur et nous conduire vers ce qui est vrai. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire non plus qu'il va être toujours parlé. Parfois, il est bon de ne rien dire. Le livre des Proverbes dit « Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Il y a des occasions où il ne faut pas tout dire. Il y a des occasions de notre vie où même la vérité, eh bien, nous gagnerons à la taire, à la conserver, à part, bien sûr, si c'est nécessaire. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire tout le temps. C'est aussi la sagesse de Dieu. Alors, regardez, si nous approuvons quelque chose, si nous approuvons quelqu'un, parfois ça peut être bien de le dire. Ça encourage la personne, un jeune chrétien, par exemple. Voilà, ça peut être bien de l'encourager, de lui dire ce que tu as fait, c'est bien. Et parfois on va le taire, parce qu'on ne veut pas non plus donner à, je ne sais pas, moi, un jeune converti sur tel... dans telle affaire, quelque chose qui pourrait le tenter, l'enfler d'orgueil. Parfois, c'est bien de ne rien dire. Si nous désapprouvons quelque chose, parfois, c'est bien de le dire. Voilà, celui qui reprend son prochain, s'attire ensuite l'approbation de Dieu, en tout cas. Parfois, c'est bien aussi de le dire, mais non pas sans avoir souligné ce que nous avons vu de bon sur la même personne. Regardez, le Seigneur lui-même nous montre l'exemple lorsqu'il s'adresse aux églises de l'Apocalypse, à certaines de ses assemblées, à qui il devra adresser des reproches. Bien, vous remarquez que toujours, le Seigneur prend soin de souligner, de voir et même de dire ce qu'il a vu de bon. Ça permettait à ceux qui entendaient sa parole bien de réfléchir et de se laisser exhorter. Puis parfois, c'est bien aussi de ne rien dire, hein, même quand on pourrait faire un reproche. Le livre des Proverbes dit « Celui qui cache un outrage est un homme prudent. » Parfois, on nous a fait du mal, on aimerait dire, mais voilà, parfois, on sent qu'il vaut mieux se taire. Donc, vous voyez, tout cet équilibre de l'Écriture quant à nos paroles. Car il faut reconnaître le pouvoir de nos paroles. Nous avons parlé de ce don extraordinaire que Dieu nous a fait, de la parole. Bien, nos paroles peuvent avoir des conséquences. Des conséquences parfois lourdes. Voyez, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Oh, nos paroles peuvent avoir un pouvoir. La vie et la mort, écrit Salomon, hein, sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Lisons dans l'épître de Jacques, ce chapitre 3, ou en tout cas certains versets de ce chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Voilà, par exemple, le verset 3. Jacques, chapitre 3, verset 3. Jacques écrit « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » Et encore le verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Voilà, quel équilibre, hein. L'apôtre Jacques nous amène à comprendre ici que, de la même manière qu'un petit gouvernail va diriger un grand navire, hein, le Titanic était dirigé par un petit gouvernail, ou bien qu'un petit feu, hein, peut embraser toute une forêt, bien la langue et nos paroles peuvent avoir de sérieuses répercussions. Et on comprend que le Seigneur, à cause de cela, nous dise, bien avant tout, veillez. Veillez que votre oui soit oui, que votre non soit non, que votre parole soit fiable et digne d'être reçue. Hein? Que notre langue ne nous amène pas à faire le mal, mais le bien. Bien plus tôt, écrira l'apôtre, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce et servent à l'édification de ceux qui l'entendent. Le Seigneur donne une justification quand il nous parle de cette nécessité d'avoir une parole claire et sans ambiguïté. Il nous dit, voyez, si on ajoute quelque chose, si on est obligé de jurer, si on est obligé d'ajouter un serment, c'est que la parole n'est pas fiable, c'est qu'on le reconnaît soi-même finalement, et les autres ne manqueront pas de le reconnaître aussi. Et il dira, c'est parce que ce que l'on ajoute à une parole fiable, une parole saine, vient du malin. Voilà, c'est le Seigneur qui le dit. D'ailleurs, Jacques le dit aussi, hein, vous l'avez vu. Zèle amer, c'est une sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Pourquoi ? Nous le savons dans l'évangile de Jean, lorsque le Seigneur est en train de dialoguer avec les principaux des Juifs, il aura pour eux cette parole, hein, qui est amenée à les faire réfléchir, à toucher leur conscience de plein fouet. Vous avez pour père le diable. Voyez ? Et il leur dira, eh bien, le diable est meurtrier dès le commencement. Et il dira aussi que quand il ment, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, c'est une parole sur laquelle nous aurons intérêt à méditer. Le diable, il est appelé meurtrier, mais il est appelé aussi le père du mensonge. Vous voyez, c'est lui qui, entrant dans le monde, a introduit le péché, d'ailleurs par le mensonge qu'il a proposé à nos premiers parents, Ève, puis Adam, par ricochet, y a cru et a emporté avec lui l'humanité. Le diable est le diviseur. Il est meurtrier. Il y a quelque chose de coupable dans le mensonge, le fait de nier la vérité ou de prononcer une parole qui n'y est pas conforme. Mais nous devons aussi prendre conscience que le mensonge apporte la division. Le mensonge apporte la division entre l'homme et son créateur. Vous voyez, lorsque l'homme ne vit plus selon la vérité, qu'il ne parle plus selon la vérité, alors immanquablement, la communion avec notre Père céleste est interrompue. Vous voyez, car Dieu est le Dieu vivant et vrai, il est le Dieu de vérité. Il ne peut pas communier avec le mensonge. Il est lumière, dira Jean, il n'y a pas en lui de ténèbres. Et le mensonge crée aussi la division entre les hommes. Vous voyez, à partir du moment où les hommes se mettent à parler avec ruse, avec fausseté, quelle communion peut-il y avoir? Vous voyez, il y a quelque chose, là il y a une barrière qui se dresse. Et ça mène à l'état du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ça empêche la confiance, bien entendu, qu'il n'en soit pas de même pour nous. Enfin, je dirais qu'au niveau de notre relation avec les hommes, le mensonge, il est grave parce qu'il déshonore la vérité. Il déshonore la vérité, c'est-à-dire que quand quelqu'un prononce le mensonge, eh bien s'il fait profession d'être chrétien, son mensonge, qui ne manquera pas d'être découvert, car tout mensonge paraîtra un jour à la lumière, bien le témoignage même de l'Évangile, il est remis en cause. Il est remis en cause par des incroyants, il est remis en cause par celui qui le voit vivre, parce que les gens raisonnent et se disent, eh bien, si telle personne fait profession d'être chrétien, voilà qu'elle ment, et si elle ment sur ce point, alors sur sa foi, sur le témoignage qu'elle rend à Jésus-Christ, très certainement, eh bien, elle manque aussi, ce n'est pas digne d'être reçu. Lisons, prenons la peine de le faire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et à partir du verset 15. Voilà ce texte remarquable. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 15. Voilà, c'est un texte qui peut paraître un petit peu compliqué, mais vous verrez. Paul écrit, « Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non ? Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Paul avait formé le projet de retourner voir les Corinthiens et pour les exhorter, pour les enseigner. Puis pour plusieurs raisons, un empêchement tout d'abord, et puis aussi le désir de ne pas retourner chez les Corinthiens avec un message sévère. Il a voulu les épargner. Il a changé d'avis. Et il a reçu cette conviction en réfléchissant qu'il était bon pour lui d'attendre encore un peu avant de visiter les Corinthiens. Mais il se trouve que près des Corinthiens, dans l'église de Corinthe, s'étaient introduits des gens qui se prétendaient apôtres et qui ont dit aux Corinthiens, vous voyez, Paul est un homme inconstant. Il vous a menti. Il a dit qu'il viendrait vous voir, il n'est pas venu. Alors, ce n'était pas ça du tout. Et Paul va dire aux Corinthiens, non, ce n'est pas ça. Je vais former le projet de venir vous voir et certes, je me suis ravisé pour un temps. Mais bien sûr, je reviendrai vous voir. D'ailleurs, il l'aurait écrit. Et alors, pourquoi c'est important ce texte? Parce que Paul, de sa conduite, de sa parole, tire une application et il va dire, vous voyez, ne pensez pas qu'il y ait en moi le oui et le non, c'est-à-dire que je dise une chose et que je fais l'inverse, parce que si vous le pensiez, vous n'auriez plus confiance dans mon enseignement, car ma parole, en tant qu'apôtre, c'est Christ qui m'en a donné cette charge, bien doit refléter Christ qui, lui, invariablement, vous voyez, ne comporte aucune contradiction, aucun mensonge, il est la vérité. En lui est le oui. Donc notre parole, en tant que chrétien, doit être fiable parce qu'elle représente le message que nous portons. Voilà, même dans les petites choses, le fait de marcher, de dire la vérité, c'est un témoignage, je vous assure, c'est un témoignage à la personne de Christ lui-même. Au travail, vous voyez, telle parole de vérité, telle démarche de vérité est un témoignage de la vérité infiniment supérieure que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alors, une parole claire et sans ambiguïté dans nos relations entre les hommes. Et puis, une deuxième une deuxième partie de cette réflexion, cette parole claire et sans ambiguïté, eh bien, elle nous enseigne, elle nous apprend aussi quant à ce qui concerne notre relation avec Dieu. Le Seigneur disait que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Jacques écrira que votre oui soit oui et votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Vous voyez, c'est une raison différente que Jacques met devant nous. Et ce jugement, bien sûr, ne doit pas nous pousser à vivre la vie chrétienne dans une crainte servile. L'amour parfait bannit la crainte, mais il y a quand même une sainte crainte de Dieu qui doit nous garder et demeurer là en nous. Eh oui, hein, c'est ce que l'Écriture dit. Celui heureux, celui qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur, c'est-à-dire qui perd toute crainte de Dieu, il tombe dans le malheur. Et encore, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. La béni soit Dieu pour sa sainte crainte qui nous garde, elle nous préserve de bien des erreurs, de bien des manquements. Elle nous permet de prendre des décisions sages. Et là où ceux qui ne font aucun cas de Dieu se fourvoient, le chrétien, il a une raison saine. Il sait ce qui est bien et il s'y tient. Alors, par rapport à Dieu, bien la crainte de Dieu, elle va nous garder, elle va nous préserver du mensonge, elle va nous préserver d'une parole qui n'est pas fiable, d'une parole ambiguë. Tenez, on peut lire dans le psaume 12. Dans le psaume 12, voilà le verset premier. Psaume 12, verset premier. Psaume 12, verset 1er. C'est David qui écrit ceci : Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ce qui est important dans ce psaume, c'est que David y déplore la disparition au sein du peuple d'Israël des hommes pieux. Une génération d'hommes marqués par leur piété, bien, était en train de disparaître. Et David, dans ce psaume, se lamente de cette situation. Et il dira, parce que ces hommes pieux s'en vont, alors on se dit des faussetés les uns aux autres. C'est-à-dire que ceux qui parler selon la vérité, c'était les hommes pieux. La marque de leur piété, c'était la vérité de leur parole. Regardez encore dans le psaume 17, le psaume 17 et au verset 3. Psaume 17, verset 3, cette parole remarquable de David, qui disait, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. La pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Voilà, c'est fort comme parole, ça. Hein ? Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Si nous nous examinons devant Dieu, si nous laissons la parole de Dieu nous sonder, si nous laissons son esprit parler à notre conscience, nous découvrirons, c'est vrai pour moi, des occasions où pour toutes sortes de raisons, nous avons été tentés, parfois nous avons pratiqué le contraire de ce qui est écrit ici, vous voyez. Notre pensée était différente de ce que nous avons dit, alors pour toutes sortes de raisons, parfois, il faut bien sûr éviter la ruse, le dessein astucieux de tromper délibérément. Hein, là, le chrétien ne va pas pratiquer ces choses-là, bien entendu. Le livre de l'Apocalypse nous parle du jugement, de la perdition éternelle de celui qui aime et pratique le mensonge. Voyez, et encore, Paul, rappelant ces choses aux Corinthiens, dira, pour ce qui est de la malice, soyez des enfants, ne soyez pas ingénieux au mal, ça ne peut pas marquer un chrétien, ça. Voilà, il se peut qu'un chrétien soit entraîné dans une circonstance, on va y revenir, à avoir une parole non conforme à la vérité, il s'en humilie, il le regrette, voyez, ça lui sert de leçon. Mais non, un chrétien ne peut pas marcher dans la ruse, ne peut pas aimer et pratiquer le mensonge. Si quelqu'un est dans ce cas, c'est qu'il n'a pas connu le Dieu de vérité. Mais, voyez, la ruse, écarter ces choses-là. Parfois, il se peut que dans une situation là où il y avait, je ne sais pas, moi, une difficulté, une tension, voilà, on se laisse aller, on prononce une parole qui n'est pas conforme à la vérité, on pense que ça va, arrondir les angles, on pense que ça va faire du bien, puis non. Non, puis notre conscience nous reprend à juste titre. Hein? Parfois, un chrétien peut être amené à mentir par surprise ou par crainte. Voyez, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire si c'est le cas? Il faut le confesser au Seigneur. Il faut le confesser au Seigneur. Il faut avoir le courage là, de se regarder tel qu'on est. Seigneur, voilà ce que j'ai dit. Hein? Je suis un misérable. Lave-moi. Dans certaines conditions, il faut même réparer, hein, rétablir la vérité, hein, si ça crée une situation là, qui persiste. Et il faut saisir son pardon. Car le sang de Jésus-Christ, si nous confessons nos péchés, voyez, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Béni soit Dieu qui lave, qui pardonne les péchés du reste de son héritage. C'est écrit ça. Hein, et ces choses ont été écrites, dira Jean, pour que nous ne péchions pas. Et ce qui nous permet de relever la tête, de vivre dans la grâce, c'est que pour le chrétien, le pardon est possible. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes en lui. Ce n'est pas une excuse hein, pour vivre dans le désordre. Bien au contraire, c'est une force, la grâce de Dieu, pour saisir le pardon et pour marcher ensuite dans la pureté, dans la vérité. Ça, c'est quelle force hein, que la grâce de Dieu. Le diable n'a plus aucun pouvoir sur celui qui marche dans la grâce et dans la vérité. Ah oui, lisons dans le livre des Proverbes encore là, ce beau verset. Proverbes chapitre 11, verset 3. Proverbes chapitre 11 et le verset 3. Proverbes chapitre 11, verset 3. Il est écrit « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. » Voilà, l'intégrité des hommes droits les dirige. Ça ne s'applique pas seulement au domaine de la parole, mais entre autres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, parfois, vous savez qu'il y a des gens qu'on appelle habiles dans la vie, qui sont capables de beaucoup réfléchir, ils ont une certaine intelligence, et ils trouvent toujours le moyen de tirer leur épingle du jeu. La question qu'ils se posent, c'est comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Parfois même, comment est-ce que je vais pouvoir, dans telle situation, y trouver mon compte et servir mes intérêts. Et ici, Salomon, qui est un homme qui pendant des années de sa vie a été à l'école de Dieu, dira, c'est pas ça la question qu'il faut se poser. L'intégrité des hommes droits les dirige, ça veut dire que ce qui nous permet de choisir, de trouver la voie, c'est qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est droit? Dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce que Dieu approuve? Voilà, si j'ai une conviction, il faut le faire. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Mais ce qui est vrai. Voilà. Peut-être qu'il faut me taire, mais peut-être qu'il faut parler aussi. Et là, il faut dire la vérité. Et ça dirige ça. C'est-à-dire que notre chemin, eh bien, il sera tout tracé. Parfois, ça coûte. Mais, voyez, Dieu bénit. Car au verset 5 du même chapitre des Proverbes, il est écrit que la justice de l'homme intègre aplanit sa voie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des obstacles, mais Dieu va les aplanir. Hein? Vous savez que Dieu, il a son aplanisseur hein, quand on est devant des difficultés. Vous voyez, quand Jean-Baptiste prêchait dans le désert, il disait voilà, que tous les chemins raboteux, qu'ils soient aplanis. Voilà, le Seigneur est capable d'aplanir nos difficultés. Il faut lui faire confiance. Et ça nous donne aussi de l'assurance. Puis un dernier texte, on va le lire dans le livre des Proverbes, toujours au chapitre 10 et au verset 20. Proverbes, chapitre 10 et au verset 20. Il est écrit « La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants est peu de choses. » Voilà, la langue du juste est un argent de choix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La langue du juste est un argent de choix. Lorsque Salomon parle d'un argent de choix, il nous fait comprendre qu'il fait allusion à de l'argent, ce métal, que l'on traitait dès les temps antiques en le chauffant pour le purifier de ses scories. Vous voyez, il y avait, quand vous aviez le minerai d'argent, il est plein de scories, il est plein de terre, il est plein de gravier, de tout ce que vous voulez. Et pour que l'argent puisse être propre à son rôle, il fallait le purifier, cet argent. Comment on le faisait ? Bien des textes de la Bible font allusion à cela. On le mettait dans ce qu'on appelait le creuset. C'était ce récipient que l'on chauffait, on portait ça à une température extrême. Et les scories se détachaient. Les scories se détachaient. Et on les écartait, on les vidait. Et l'argent, voilà, quand le liquide reprenait forme, eh bien, ça devenait un argent de choix. Il y avait tout un processus. Et l'argent était purifié de ses impuretés. Et Salomon nous dit, la langue du juste, c'est un argent de choix. Ça veut dire que pour que notre parole soit, comme nous le disons, ça ne se fait pas tout seul. Car ça nous humilie, mais nous ne sommes pas naturellement enclins à toujours vivre et à toujours dire la vérité. Et il faut qu'il y ait la grâce de Dieu, il faut qu'il y ait ce travail de Dieu dans notre cœur. Là, la langue du juste est un argent de choix. D'abord le cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, la langue, c'est une chose, mais elle dit, elle donne le signal que notre cœur lui envoie. D'ailleurs, Salomon ne s'y trompe pas. Souvent, dans les proverbes, il y a deux choses en parallèle. Il y a toujours une relation entre les deux. Salomon poursuit en disant, mais le cœur des méchants est peu de choses. Pourquoi ? Parce que le méchant, le pécheur, l'homme qui ne craint pas Dieu, ne soumet pas son cœur à l'action bénie et bienfaisante de la parole de Dieu. Le chrétien, en revanche, permet à cette parole, il permet à la personne bénie de l'esprit d'agir dans son cœur. Et ça y produit quelque chose, ça nous change, ça nous remet en question. Parfois, cette action bénie, elle nous reprend, elle nous humilie profondément, mais elle nous conduit vers Christ. C'est ce qu'on disait. Et quand tout ce travail a lieu, c'est un travail, c'est tout un processus caché, eh bien, ça va produire quelque chose de bon au niveau de notre langue. C'est ça qui nous permet, voyez, d'avoir une parole claire, sans ambiguïté, de choisir la voie de la vérité. Dans notre intérêt, il y a encore un proverbe qui dit « Le pain du mensonge est agréable à la bouche, mais ensuite, sa bouche est pleine de gravier. » Voyez, on pensait que ça allait être bien, et puis le mensonge a apporté un tant de situations qui ensuite perdurent et qui nous font nous-mêmes souffrir. Le Seigneur veut le meilleur pour nous. Que le Seigneur nous convainque par sa parole, qu'il nous conduise dans sa voie droite. Voilà, nous avons tous besoin de sa grâce, bien que dans sa grâce, il nous enseigne ses voies. Il conduit les humbles dans ses sentiers. On prie le Seigneur ?